7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le secrétaire d'État chargé du numérique.
Bonjour Mounir Majoubi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter. Mounir Majoubi, vous avez entendu Thomas Legrand, vous avez entendu Dominique Seux. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que les Français nous envoient un avertissement. Ils nous disent, nous sommes là, on écoute. Et ce que j'entends, moi, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. C'est une exigence.
Ah oui ?
Et une exigence des Français qui nous regardent et qui se posent la question de savoir ce que fait ce gouvernement. Et c'est tout à fait légitime. On sort d'un an et demi de campagne. Pendant un an et demi de campagne, on raconte ce qu'on va faire. On dit quelle est la vision. Et puis après, on arrive au pouvoir. Et puis là, il y a le travail. Et ben, ce travail, il a démarré. Il y a déjà des choses qui sont arrivées. Il y a eu les premières lois qui ont été votées. Il y a la loi pour la confiance qui a déjà été votée. Puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour annoncer la suite.
Alors
il va y avoir les ordonnances du travail qui arrivent, il y a eu le plan climat, il y a énormément de choses qui ont déjà été faites, peu visibles certainement, mais regardez l'automne, attendons les prochaines étapes et vous allez voir que ce gouvernement, il a bossé et les promesses qu'on a faites, on est en train de les porter.
Vous dites que vous avez bossé, vous dites que vous avez déjà bossé, que vous avez fait voter des textes et pourtant il y a ce sondage, on est obligé d'en parler, une chute de 24 points en 2 mois pour le président de la République, est-ce que vous trouvez ça injuste ?
Peu importe, ce qui est important c'est le signal, les Français trouvent aujourd'hui, quand on leur pose la question, il y en a moins qu'avant qui disent qu'ils soutiennent ce gouvernement, qu'ils soutiennent le président de la République. Bon, bah, ça, il faut qu'on en fasse, il faut qu'on le
prenne. Mais pourquoi ? Essayons de comprendre. Comment vous expliquez ce sentiment de déception, de désamour, de trahison ? Qu'est-ce qui s'est passé cet été ?
D'attente, d'exigence, et ça prend du temps de transformer. Vous savez, il y a une vision. Pendant cette campagne, tous les partis étaient d'accord sur une chose, c'est qu'il fallait transformer les règles du jeu. Par contre, on n'était pas d'accord sur la méthode. À l'extrême gauche, on avait des partis qui disaient, vous savez, je pense que c'est très agréable d'être à la France Insoumise, capable d'annoncer tout ce qu'on veut pour les Français et par contre on n'explique pas comment on va le faire. À l'extrême droite, on avait un parti qui expliquait que la seule solution c'était de monter une partie des Français contre les autres. Puis il y a nous qui avons essayé d'expliquer comment on voulait avec humanité essayer d'aider les plus faibles et d'expliquer comment on allait créer les conditions économiques pour pouvoir financer cet accompagnement et des mesures réelles, efficaces. Et
puis vous avez mal expliqué.
Mais ça, c'est pas intéressant. Je pense que, ce que je veux dire par là, c'est que j'utiliserai jamais l'argument de dire on a mal expliqué. Ce qu'on a à faire, c'est à mieux expliquer. Ça, c'est certain, mais c'est surtout
donc vous avez
à bosser.
Un peu mal expliqué.
Ce qui est important, c'est qu'on bosse. Ce week-end, on a entendu pas de blabla, le combat, pas de blabla, la révolution.
Voilà,
moi,
Jean-Luc
je dis pas
Mélenchon.
De blabla, le travail.
Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez peut-être écouté, à Marseille, il a donné de la voix, il vous a critiqué, voilà ce qu'il a dit.
Comme ils sont nombreux, ceux qui croient qu'à la rentrée, ils ne trouveront pas leur feuille d'impôt pour les taxes d'habitation, alors qu'ils vont les trouver, alors qu'ils vont voir la CSG augmenter, alors qu'ils vont voir les APL diminuer.
Alors qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'il y a la com, il y a l'explication et puis il y a le fond. Les Français, et Dominique Seux le disait, vont recevoir leur feuille d'impôt, ils vont recevoir leur salaire et ils vont peut-être avoir des surprises.
Ils vont recevoir leur feuille de salaire et c'est là-dessus qu'il faudra être exigeant avec le gouvernement parce qu'ils vont voir qu'on aura, dans cette prochaine loi de finances, mis en place ce que nous avions promis, c'est-à-dire de transférer une partie du poids, une partie des charges sur la CSG et qui va faire que chaque salarié qui travaille aujourd'hui va voir son salaire augmenter.
En deux temps, vous avez décidé pour ce qui était la mesure emblématique pour les classes moyennes et pour les classes moyennes d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la baisse des cotisations sociales, vous avez décidé de le différer, de le faire en deux temps.
On a décidé.
Donc ils ne vont pas le voir sur leur bulletin de salaire en janvier.
Ils vont le voir chaque mois. Ils vont voir chaque mois qu'il y a une transformation. Pareil sur la taxe d'habitation. Ça vient petit à petit, mais tout viendra quand même dès 2018 sur la taxe d'habitation et sur les salaires. Mais quand même, revenons sur une chose. Quand je vous dis que d'un côté, il y a un parti qui annonce des choses, la France Insoumise, qui promet immédiatement la révolution, et nous d'un côté qui promettons une révolution aussi dans les mentalités, mais aussi sur la fiche de paye. Sauf que nous, on est aussi des réalistes. Et on est aussi des personnes qui pensons qu'il faut absolument mêler humanité avec efficacité. Et bien aujourd'hui, on a un sujet. C'est si on veut mettre en place de façon durable, pérenne, tous ces dispositifs, il faut qu'on en ait les moyens. Et comme on a décidé de ne pas augmenter les impôts, et je pense que les Français nous ont aussi élus pour cela, et je pense que les Français, quels qu'ils soient, ne sont pas aujourd'hui à même de payer encore plus d'impôts. Ouais. Alors il faut être responsable budgétairement.
Vous allez pourtant augmenter la CSG dès le 1er janvier à venir, donc il y aura une augmentation d'impôts. En revanche, vous allez différer les mesures comme la baisse des cotisations sociales pour les classes moyennes. Vous dites, nous sommes réalistes, et je vous entends ce matin. Mais alors pourquoi est-ce que votre réalisme ne touche pas les plus riches ? Pourquoi est-ce que la réforme de l'ISF entre en vigueur dès le 1er janvier. Il y avait urgence à bien traiter les très riches.
Non, il y a urgence à traiter ceux qui ont moins. C'est pour ça que le plan qui pour moi est le plus important de ce quinquennat, c'est celui qu'on va annoncer à l'automne sur les compétences des Français et sur le plan d'investissement d'avenir qu'on a en train de construire. Fin septembre, on aura déjà les premières grandes orientations de ce plan d'investissement et les premières mises en place. Ce choc de compétences pour les Français. L'idée sur l'emploi, vous savez, il y a deux choses. Un, il faut aider les entreprises à créer plus d'emplois. Donc pour ça, il faut une France dynamique, il faut une capacité pour les entreprises à recruter plus facilement, c'est l'objet de la loi travail. Et puis de l'autre côté, il faut que les Français aient les bonnes compétences. Parce que certains, parce qu'ils ont été éloignés de l'emploi pendant trop longtemps, ne les ont pas eues. Et ça, ça coûte cher. Eh bien, ça coûte cher et on va le financer. Mmh. Et cette grande révolution du maintien dans l'emploi, cette grande révolution sur l'emploi, eh bien, elle se fait par étapes. On a commencé par la loi travail qui va faciliter, fluidifier le marché du travail. On l'a mis avec des mesures de compétitivité pour les entreprises en allégeant le coût du travail. Et la troisième étape, c'est de massivement investir sur les compétences des Français.
Alors, la loi travail, le contenu des ordonnances sera dévoilé ce jeudi par le Premier ministre. Les informations filtrent au compte-gouttes. Il y a quand même une information qui a été, une annonce qui a été faite dans le journal Le Monde ce week-end par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle annonce qu'un code du travail numérique va être créé. Comme c'est votre domaine, le numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer?
Ce code du travail numérique, il vient d'une réalité. Vous savez, avant de faire tout ce que j'ai fait dans le numérique, j'ai avant tout été délégué syndical et j'ai tenu la permanence de droit du travail à la Bourse du Travail à Paris. Tous les gens viennent toute la journée, ils font la queue près de 2 à 3 heures pour pouvoir parler avec un délégué syndical pour essayer de comprendre le droit du travail. Parce qu'un des plus grands, une des plus grandes inégalités sur le droit du travail, c'est entre ceux qui peuvent le comprendre et ceux qui ne le comprennent pas. Aujourd'hui, quand vous prenez le code du travail dans les versions imprimées, quand vous allez sur Légifrance, vous ne pouvez pas naviguer sur ce code du travail. Il faut avoir passé du temps, il faut avoir été expert. Bah, ce code du travail numérique est là pour réparer ça. Ce sera un objet numérique qui permettra à un citoyen lambda, à un salarié, à un employé, un futur salarié, à un patron de PME qui n'a jamais compris les règles auxquelles
donc
il était
soumis, de le construire. Vous allez mettre le code du travail sur PDF, c'est ça la grande nouveauté?
Mais non. Vous savez, c'est parce qu'on a trop pensé ça longtemps qu'on a fait du mauvais numérique. Hmm. Mettre le code du travail de façon numérique, c'est le faire pour que des gens comme vous et comme moi puissions le comprendre autant que tous les salariés et tous les chefs d'entreprise
à travers la France. Vous voyez, Mounir Majoubi, quand moi j'ai lu Muriel Pénicaud disant on aura un code du travail numérique, je me suis dit peut-être qu'il y aura des dispositions, des annonces dans le domaine du numérique. Le domaine du numérique dont vous êtes en charge, c'est un domaine où il y aura le plus d'emplois créés dans les jours qui viennent. Et en même temps, c'est le domaine où on est le moins bien payé. Et surtout, on est un peu des salariés Kleenex. Et moi, je pensais que vous alliez, il y aurait des dispositions de cette loi pour sécuriser les salariés du numérique.
En fait, le numérique, il est partout dans cette loi. Il est partout dans tout ce qu'on fait. Parce que le numérique, c'est une des deux grandes transitions qu'on est en train de traverser entre la transition environnementale et la transition numérique qui vont de commun. Tout est transformé. Aujourd'hui, il y a des emplois qui vont disparaître. Il y a des emplois qui vont apparaître. La raison pour laquelle on forme tous les Français, la raison pour laquelle on va massivement investir pour la formation, c'est parce que le numérique, il va transformer les compétences. Il y a des emplois qui vont massivement disparaître.
Mais est-ce que vous allez protéger les salariés du numérique dans cette loi, oui ou non?
On va protéger tous les salariés. Il faut vraiment se rendre
compte
que...
Pourquoi on n'entend pas la dimension sociale de cette réforme?
Parce que on est dans une phase où il a fallu parler du budget, il a fallu parler des lois de financement, il a fallu parler des économies qu'on allait faire, il a fallu parler du premier pilier dont je vous ai parlé tout à l'heure, de fluidifier le marché. Et on oublie de raconter que notre seul objectif, c'est de permettre aux Français qui ont le moins aujourd'hui de pouvoir traverser ces grandes transitions.
Dernière précision sur une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il avait promis que toute la France serait couverte par le très haut débit en 2022. Il semble être revenu sur cette promesse en affirmant que toute la France sera couverte par le haut débit et le très haut débit. C'est une différence, elle est de taille, puisque à peu près tous les Français aujourd'hui sont couverts déjà par le haut débit. Il avait promis le très haut débit, est-ce qu'il sera appliqué ou pas?
Attention Léa Salamé, vous oubliez, il fait cette nouvelle promesse, mais il l'avance de 2 ans. Donc l'objectif 2022 du très haut débit pour tous, elle reste, sauf que nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous faisons une nouvelle promesse, un nouvel engagement, c'est dès 2020, donc dans les deux prochaines années et demie.
Je vous fais répéter pour qu'on comprenne bien, ce sera le très haut débit pour toute la France, je précise, le très haut débit pour toute la France en 2022.
Ça c'est sûr, et dès 2020, mieux. Parce que ce que je disais, ce que nous avons porté avec ce gouvernement, avec M. Mézard, c'est qu'il faut que tous les Français maintenant aient accès à ce bon débit.
Merci Mounir Majoubi et très belle journée à vous.
Bonne journée.